au bout de la corde. Cydalise le regardait, égaré. Ses cheveux blonds étaient défaits, emmêlés, collés par la sueur à son front. Sa longue chemise rouge déchirée la rendait aussi troublante que plus tôt, dans le kiosque. Elle était griffée par endroits et la chair de ses poignets portait la marque de ses liens. « Si je me fais enlever par un dragon, viendrez-vous me sauver ?» N'osant pas la regarder en face, Jaël lui prit le bras et lui dit « Nous devons sortir, viens, courons !» L'épée à la main, il s'élança dans les couloirs. Il fallait trouver la sortie avant que le monstre ne les rattrape. Autant que possible, Jaël ne voulait pas se battre. Il voulait retrouver Madame Myriel et qu'elle se justifie enfin. Autour d'eux, la foule hurlait. « Oui, tu la tiens! Prends-la! Fais-la saigner! Tu es foutu! Tu as trahi la règle !» Les allées se ressemblaient toutes. Il courait, tournait à gauche, puis à droite, rebroussait chemin. Le monstre n'apparaissait pas, mais la sortie non plus. Les murs bougeaient. Cydalise, épuisée, avait du mal à le suivre. Il courut encore un peu jusqu'à ce qu'il soit certain. Cet après-midi, le labyrinthe l'avait empêché de trouver le centre, et maintenant, il l'empêchait de sortir. Il trouva alors un banc de pierre et y monta. Nulle part, il ne voyait dépasser les cornes du monstre, comme si ce dernier avait disparu du labyrinthe. Et Madame Myriel se tenait penchée en avant, les mains appuyées à la balustrade, royale maîtresse du jeu. La foule se tut. « Écoutez-moi bien, monsieur de Cardane, vous avez pris la responsabilité de cette jeune fille, à votre tour maintenant de vaincre le monstre. Mais ce sera votre propre monstre au cœur du labyrinthe. Faites sortir la fille au moins, elle n'a rien à voir avec tout cela. Ignorez-la, elle n'a aucune importance. » Le regard de Jaël rencontra celui de la dame. Il voulut dire quelque chose, mais se tut. Il redescendit de son banc, se tourna vers Cydalise, perdue et désespérée. Elle aussi faisait-elle partie du piège? De rage, il tira sur la chemise de la jeune femme, dévoilant ses seins un peu lourds. Elle baissa les yeux, soumise et résignée. Il avait des envies de violence, sa main était crispée sur son épée. La foule recommença à hurler. « Prends-la, mais prends-la, elle est pour toi !» Jaël prit une profonde inspiration. « Cydalise, je vais trouver le cœur du labyrinthe. Après, cette histoire sera finie pour toi. Je t'emmènerai hors du jardin et tout sera fini. » Elle s'affola. « Milieu du labyrinthe, c'est là qu'est la nuit, c'est là qu'elle se cache, c'est de là que viennent tous les monstres. C'est donc là que je dois aller trouver le mien. Nous ne sortirons pas avant. » Il marchait plus doucement. La chemise de Jaël était collée à sa peau par la sueur, l'odeur de sève était toujours aussi forte. Et autant le labyrinthe leur refusait l'accès vers la périphérie, autant il leur facilitait la progression vers le centre. Ils ne tardèrent pas à l'atteindre. Ce n'était pas vraiment une tonnelle. Juste un épais agglomérat de plantes, une sorte de dôme de 10 pieds de diamètre, vert et luxuriant, parsemé de fleurs et de feuilles. Un incroyable entrelac de tiges, de nervures, de branches, de pétales, un mamelon végétal jaillissant au milieu du dédale. Et face à eux, fendant la paroi de la tonnelle, se trouvait un passage, une sorte de porte, une fente fermée par un rideau de feuilles et de tiges souples. Jaël et Cydalise restèrent immobiles quelques instants face au passage, à cette bouche verticale derrière laquelle ils le savaient se trouvait le monstre. Puis Cydalise cria, essaya de reculer, et Jaël vit que des plantes grimpantes s'enroulaient autour de ses jambes, une sorte de lierre aux tiges aussi résistantes que du métal. Il essaya de les trancher de la lame de son épée, mais elle repoussait aussi vite qu'il les coupait, et il risquait de blesser Cydalise. Alors il se redressa et dit sèchement, « Tu restes ici. Quand j'en aurai fini, tu partiras. » Elle hocha docilement la tête. Il lui passa la main dans les cheveux et sur les épaules, puis il se retourna et se glissa dans la fente. La foule retenait son souffle. Le rideau de feuilles se referma derrière lui. Il fit un pas. Le sol mou s'enfonçait sous ses pieds. L'antre était bas et très sombre, mais ses murs n'étaient pas totalement opaques. Dans de minuscules interstices, on voyait scintiller çà et là la lumière des flambeaux entourant le labyrinthe. L'air épais, humide et moite, étouffait les bruits. On entendait à peine les sons de l'extérieur, les cris des spectateurs et les gémissements apeurés de Cydalise. Jaël sentit ses vêtements se coller instantanément au moindre repli de sa peau. Et il y avait cette odeur de sève plus forte ici que partout ailleurs, cette odeur épaisse, gluante, qui vous remplissait l'esprit, qui venait étouffer la pensée. Quelqu'un se tenait face à lui. Il le sentait. Son épée pesait lourd dans sa main. Et c'est avec ceci que tu veux me vaincre? La voix était jeune, légère, celle d'une jeune fille. Jaël avait peur. Quel était le piège? Le monstre prenait-il cette voix pour le tromper, le manipuler? Il faudra vaincre votre propre monstre, monsieur de Cardane. Range ton épée, allons. Tu n'en auras pas besoin contre moi. Une jeune fille? Il répondit d'une voix peu assurée. Je pourrais pourtant te la passer à travers le corps. Et au moment où il disait cela, il rengainait son arme. Si combat il y avait, il serait d'une autre nature. La créature dit alors, moqueuse, me passer l'épée à travers le corps. Ferais-tu cela, Jaël? Elle prit délicatement les mains de Jaël et les posa sur son corps à elle, ce corps qu'il menaçait un instant auparavant. Sous ses doigts, Jaël sentait une peau jeune, lisse, la peau d'une jeune fille, votre propre monstre. Ses mains remontèrent, caressèrent un cou fragile, la courbe d'une fine mâchoire. Ils s'attardèrent sur les joues et les pommettes. Des cheveux longs tombaient dans le dos et les doigts de Jaël s'y mêlèrent un instant. Une jeune fille, juste une adolescente, comme il les aimait, fraîche, innocente. Ses mains redescendirent, esquissant les contours d'une jeune poitrine. Es-tu le monstre que je dois tuer? Dois-tu tuer tout ce que tu dois vaincre? Un silence. Les mains de l'autre se posèrent sur lui. Ouvrant son gilet, le lui enlevant. Comment reconnais-tu un monstre, Jaël? Jaël ne pouvait pas réfléchir, le sang battait à ses tempes, la sève l'étouffait et l'enivrait. Les mains ouvraient maintenant sa chemise, caressant fugitivement la peau de sa poitrine. Il dit d'une voix cassée, le monstre est au cœur du labyrinthe. Je dois te vaincre pour sortir d'ici. La chemise tomba au sol. La créature l'enlaça brutalement et se serra contre lui, sa fraîche poitrine pressant contre celle humide de sueur de Jaël. Elle l'embrassa, sa langue était pointue et joueuse, sa bouche avait goût de sel et de sève. Puis elle murmura. Ce soir, Jaël, j'ai 15 ans et je suis vierge. Et elle recula, le relâchant. Jaël la voulait, mais il y avait un piège, bien sûr. Tout était si confus, si complexe. Il ne savait plus, lui céder, n'était-ce pas se tromper? N'était-ce pas céder à sa faiblesse, à son vice? Il ne voulait pas y penser. Agir sans réflexion, c'était tout ce qu'il savait faire, obéir à son instinct, à son désir, à cette attirance qui le poussait sans cesse vers les femmes pour mieux se perdre, pour mieux mourir en elles. Il s'avança vers la créature, la repoussa sur le sol, s'allongea à côté d'elle. Des mains habiles et rapides achevèrent de le dénuder. Il gisait maintenant allongé sur la terre épaisse et molle. Elle parla doucement. Je vais te dire la règle du jeu. Nous sommes deux. Mais un seul d'entre nous va sortir d'ici. Un seul, le plus fort de nous deux. Elle l'embrassa encore, sa langue jouait dans la bouche de Jaël, puis agaça sa poitrine. Le plus fort ressortirait. Il la repoussa, roula sur le dos. Le plus fort, votre propre monstre. La main de la créature lui caressa la joue et d'une voix amusée, elle dit. Jaël, Jaël, tu as soif peut-être? Bois le jus de mon fruit, il te rafraîchira, il te fera oublier. Pauvre Jaël, est-ce vraiment ton nom? N'est-ce pas tentant de rester allongé ici, de ne plus bouger? N'est-ce pas tentant de s'enfoncer dans le sol, de vivre au milieu des fleurs, Jaël, au milieu des parfums et de la sève? Encore cette odeur de sève qui sourdait de la terre humide, la sève qui rendait sa peau moite et collante, ne plus bouger, mais pourquoi ne se taisait-elle pas? Se nourrir au sein de notre mère, Jaël, tout est tellement plus facile. Qu'elle se taise. Il l'attira brusquement et l'embrassa, l'étouffa de ses lèvres, la bascula sous lui, l'écrasant de tout son poids. Il la voulait, il fallait qu'il la prenne. C'était cela le combat. Il fallait qu'il la prenne, qu'il la vainque à sa façon. Il continua à l'embrasser, pesant sur elle, et il lui écarta les cuisses, l'obéit docilement. Il y avait ce ventre offert et son sexe à lui, dur et tendu, prêt à s'y enfoncer. Il fallait la violer comme si Dalise l'avait été. Et non. Non, il ne pouvait pas faire cela. Il ne pouvait pas prendre une femme ainsi. Il la repoussa, se redressa, se mettant à genoux, respirant à grands coups, cherchant de l'air. « Tu as peur, Jaël, parce que moi, tu ne peux pas me tromper. Tu ne peux rien me cacher. Moi, tu ne peux pas mentir. Tu ne peux pas dissimuler ce que tu es. » Et la voix devenait cruelle. S'étant redressée à son tour, elle poussa Jaël en arrière. Il se laissa aller, tombant de nouveau dans le sol mou. Elle vint alors au-dessus de lui et plaqua ses poignets sur le sol. Il sentit des vrilles végétales jaillir pour s'y entortiller, lui lier les mains, l'attacher irrémédiablement à la terre. D'autres vrilles jaillirent encore, ligotant ses jambes, enchaînant ses avant-bras, l'immobilisant totalement. Alors la créature l'embrassa de nouveau et laissa courir sa bouche sur le corps de Jaël, effleurant son ventre et ses cuisses. Ils tremblaient de désir et de peur, chacun croissant l'autre. Elle se redressa, et bientôt il sentit un liquide épais, sucré, gluant, lui couler sur les lèvres puis dans la bouche. On aurait dit du miel. Jaël ne se défendit pas, laissa le liquide lui couler dans la gorge et l'avala. Et il eut l'impression que sa peau devenait extraordinairement fine et sensible. Il sentait les gouttes de sang se former aux multiples égratignures qui lui parsemaient le corps, le tracé de la sueur qui coulait sur sa peau. Il sentait avec acuité les caresses que lui prodiguait du bout des doigts la créature. Retenu par les liens végétaux, il se tordit, se tendit pour aller au-devant de ses mains qui le tourmentaient, qui l'effleuraient et le faisaient souffrir. Alors elle s'allongea contre lui et frotta son corps contre celui de Jaël en de longues caresses violentes. En glissant contre sa poitrine, les tétons de la créature laissaient comme des marques incandescentes sur sa peau et il ne cessait de la désirer toujours plus. Il n'était plus que sens, il n'était plus qu'un corps sans esprit végétal. Ses doigts crochés dans la terre étaient ses racines, son phallus tendu était le tronc, cherchant désespérément à atteindre un ciel de chair qui se dérobait. Alors elle s'assit au-dessus de lui et ses doigts entourèrent et guidèrent le sexe de Jaël, et il sentit qu'il s'enfonçait dans une chair étroite qui le recouvrait et le dominait. Appuyant ses mains contre lui, elle le chevaucha, le força, lui griffa la poitrine et la douleur envoya ses ondes fulgurantes dans le corps de Jaël. Ses liens lui sciaient les poignets et les chevilles, laissait des traces sanglantes sur sa peau, mais bientôt sa sève monta et jaillit violemment, le faisant crier avant qu'une ombre rouge et noire le recouvre et l'entraîne dans des ténèbres accueillantes. Il ne resta plus que l'obscurité et une pulsation sourde qui lui traversait le corps. Jaël plongea dans une torpeur hébétée, au-delà de la souffrance. Les vrilles végétales s'enfonçaient dans sa peau, sous sa peau peut-être, et il les sentait battre contre lui, traversés par un flot épais et régulier. Un instant, sa conscience vacilla comme une flamèche qu'on souffle. Il se sentait glisser lentement vers le sommeil, vers un long repos, au milieu de cette végétation noire, humide et vivante. Un chemin juste un peu trop facile, où il pourrait oublier toutes celles qu'il avait abandonnées. Cydalise, Aurore dans sa tour, et d'autres plus tôt, dont il ne se rappelait même pas le nom. Il gémit, tira sur ses liens, sentit son sang couler dans son cou et sur sa poitrine. La douleur aiguë se rappela à lui, il étouffa, retomba en arrière sur sa couche de terre et d'humus. Il se débattait, cherchait de l'air, mais les liens se resserrèrent, s'enfonçant de plus en plus loin dans sa chair, étouffant davantage. Il sentit le froid et un gouffre immense et ténébreux derrière lui, derrière cette chaleur trompeuse, derrière la torpeur qui le tentait. Alors la peur revint, et il voulut crier, appeler à l'aide, mais ses poumons et sa gorge étaient si comprimés qu'il n'avait plus aucun souffle. Il faisait si froid maintenant. Un peu de lucidité, Jaël, le monstre avait vaincu. Ses doigts se refermèrent sur un objet rond et lisse tombé dans la terre non loin de lui. La montre d'Aurore, la petite montre de nacre. La serrant entre ses doigts, il chercha le mécanisme d'ouverture et le pressa. L'opercule s'ouvrit avec un bâillement métallique et l'air de la chansonnette enfantine remplit le silence et les ténèbres, obsédant et répétitif. « Non, Jaël !» Le monstre gémissait. « Non, non, vous ne devez pas, pas cette musique. C'est à moi, c'est ma musique. Vous me l'avez prise, vous m'avez pris ma jolie montre. » « Aurore ?» Jaël sentit un mouvement comme elle s'approchait de lui à quatre pattes. Une main fébrile fouilla la sienne, garda les doigts serrés sur la montre comme si sa vie en dépendait. Mais avec une force surprenante, elle ouvrit la main de Jaël et s'empara du boîtier. Elle pleurait au son des petites notes mécaniques. « Ma montre, ma montre! Pourquoi me l'avez-vous prise? Pourquoi fait-il si noir ici? Où est ma fête? Où sont les lumières ?» Jaël la devina, tremblante, les mains resserrées sur son trésor, et la voix se brisa. « Ce n'est pas moi, le noir, le sang, ce n'est pas ma faute. Je vous en prie, croyez-moi, je n'avais pas voulu, je ne voulais pas. Ma fête était si belle, et moi je ne voulais pas. Le mécanisme s'arrêta, et Jaël entendit qu'elle le remontait pour l'écouter encore, recroquevillé en pleurant dans la terre, allongé près de lui, secoué de petits sanglots, seul dans son cabinet de ténèbres. Et elle le remonta encore et encore et encore. Alors, bercé par les pleurs et la musique, Jaël ferma les yeux et perdit conscience. L'air était humide et froid. La rosée se déposait sur sa peau. Jaël ouvrit les yeux. Au-dessus de lui, la pâleur de l'aube chassait les ombres de la nuit. Il resta longtemps allongé, affaibli par le froid et la fatigue, regardant le ciel changer lentement de couleur. Puis, quand le soleil se fut enfin levé et que sa chaleur lui réchauffa la peau, il trouva la force de se redresser et de contempler le jardin autour de lui. La tonnelle était morte et desséchée. Les restes de plantes s'enroulaient autour des superstructures de métal rouillé. Le labyrinthe avait pris un aspect sauvage, son beau tracé troublé par la poussée anarchique des buis. Au-delà, la balustrade à moitié effondrée était recouverte de mousse. Il n'y avait plus personne. Jaël rajusta ses vêtements déchirés et fouilla l'humus de la tonnelle sans trouver aucune trace de la jeune fille. Toutefois, il ramassa la petite montre, maculée de terre. Après une hésitation, il la remit là où il l'avait trouvée. Il était vivant. Il avait eu de la chance. Sans doute était-il marqué. Certains hommes doivent ouvrir et fermer des portes, commencer ou terminer les histoires. Hésitant, lucide et serein comme on peut l'être après une longue nuit sans dormir, il sortit du labyrinthe, passant près des bassins à l'eau verte et des fontaines rouillées et fendues. Le jardin était à l'abandon. Les herbes sauvages se mêlaient aux fleurs, les orties poussaient entre les buissons de roses. Les buis que personne n'avait taillés depuis longtemps étaient morts ou alors avaient pris des formes extravagantes. De la végétation jusqu'aux genoux, Jaël remonta vers le château cherchant vainement une trace des courtisans. Toutes les pièces de la demeure étaient vides et leurs fenêtres cassées. Il ne restait que quelques débris de bois et de plâtre, pas un lustre, pas un chandelier, pas un rideau, pas un parfum, pas un seul souvenir de la fête. Quant à l'observatoire, il était rempli de poussière. Jugeant alors qu'il n'avait plus rien à faire ici, Jaël suivit la longue perspective, le château dans son dos, poussa la grille rouillée et s'engagea sur la route de Coronia. Le soleil lui baigna le visage et il inspira profondément. Il fallait maintenant retourner dans le monde. Il revint à Coronia, épuisé et affaibli. Une fièvre le tint enfermé chez lui près de 2 semaines, et quand il revit enfin le monde extérieur, tout l'épisode vécu au château de Madame de Cythère lui parut aussi lointain et aussi confus qu'un mauvais rêve. Il interrogea quelques amis, sans conviction, sur son propre emploi du temps. Avait-il envie, vraiment, de connaître toutes les réponses? Vint l'automne. Une nouvelle publiée sous son nom fit scandale, quelques lecteurs et lectrices ayant voulu y voir un récit à clef. Le scandale lui apporta une petite célébrité, lui ouvrit certains salons, dont celui du dernier étage du luxueux hôtel de Gelsin. Là, autour d'un célèbre jardin d'hiver, se réunissaient 3 soirs par semaine les membres d'un club de jeu très fermé. Le talent de Jaël aux cartes, ainsi que quelques amitiés féminines en firent un habitué. Et un soir, en ces lieux, il entendit de nouveau parler du jardin de Mademoiselle Belle. Les discussions s'étaient transformées en murmures, l'huile des lampes était presque épuisée, il devait être très tard. Les courtes mèches prises dans les bulbes de verre poli suffisaient à peine à éclairer le petit salon. La pièce était confortable, le tapis épais étouffait le bruit des pas, et de lourds rideaux protégeaient les lieux de la fraîcheur de la nuit. Les fauteuils à haut dossier étaient tapissés de velours sombre. Jaël de Kerdan occupait un de ces fauteuils, plongé dans une discussion à voix basse avec une demoiselle assise sur ses genoux. La jeune femme se nommait Clarissa, il l'avait rencontrée à peine 2 heures plus tôt. Elle était ce que l'on pouvait appeler une rousse piquante. Jaël avait aimé son visage parsemé de taches de rousseur, son petit nez de souris et son rire facile. Il s'était affronté à une table de jeu, il avait gagné. Pour se faire pardonner sa victoire, Jaël lui avait offert à boire, puis ils étaient allés bavarder tous les deux. L'ambiance de la soirée et le suc d'Ilinine avaient joué leur rôle, et la discussion avait pris un tour plaisant. Et si je ne me trompe pas, ses lèvres-là réclament un baiser. Et Clarissa répondit d'une voix amusée. Voyons, ces choses-là ne se disent pas. Si elles ne se disent pas, alors taisons-nous. Le baiser qui s'ensuivit fut trop court à son goût, car il fut interrompu. Votre goût pour les fleurs en bouton est toujours aussi vif, monsieur de Kerdan. Jaël leva lentement les yeux. Debout face à lui, vêtue comme il se doit avec la plus grande élégance, se tenait Madame Myriel. L'ombre ne l'empêchait pas de deviner son sourire moqueur. « Madame, je vous ai cherché pendant des mois sans vous trouver. Me cherchiez-vous vraiment? Comment aurais-je pu vous oublier? Je ne vous ai pas oublié non plus. Vous me devez une revanche. Voulez-vous la prendre maintenant ?» À cette question, Clarissa fit preuve d'une impatience agacée. Maintenant, oui, dit Madame Myriel, aux cartes. Mademoiselle, vous me permettez, je l'espère, de vous l'enlever. La demoiselle fit une moue scandalisée, lançant un regard désespéré à Jaël pour obtenir son soutien. Celui-ci l'embrassa rapidement et dit « Nous pourrions nous retrouver tout à l'heure dans un de ces salons du bas. » Tout à fait énervée, maintenant, Clarissa se leva d'un bond et dit d'un ton sec « Tout à l'heure, oui, certainement. » Et elle partit dans un grand froufrou de jupes indignées. Jaël la regarda s'éloigner en soupirant. « Vous venez de mettre fin à une grande histoire d'amour. » Ils s'installèrent à une des tables libres de la salle de jeu. Sur un geste de Jaël, on leur apporta les cartes, les jetons, ainsi qu'une carafe de vin et des verres. « Fixerons-nous un enjeu, madame ?»« Pourquoi pas? Quel serait le vôtre ?» La question était tentante, d'autant plus qu'il l'avait gagnée la dernière fois. « Votre nuit ?»« Ma nuit, est-ce tout ?» Et quelques explications sur ce qui s'est passé au château de madame de Citer. Voilà un enjeu d'importance. » Elle fit mine de réfléchir. « Quant au mien, vous êtes écrivain, n'est-ce pas? Si je gagne, j'aimerais que vous m'écriviez cette histoire. » « Je vous le promets, » répondit Jaël. Cette fois-ci, la chance ne lui sourit pas. Madame Myriel jouait avec calme et assurance, lui prenant tous ses jetons sans qu'il réussisse à la contrer. La partie fut brève. Jaël posa ses dernières cartes avec fatalisme. « Vous avez gagné, peut-être me faut-il un peu plus de danger ou de menace pour jouer correctement. » « La chance est une maîtresse infidèle. Je compte sur votre parole. » « Je la respecterai. Nous allions marcher un peu. » Le gage ne déplaisait pas à Jaël. Il s'y mettrait dès le lendemain. Écrire pour honorer une dette de jeu, voilà quelque chose qu'il n'avait jamais fait. Cela n'empêcha pas sa défaite de l'agacer. Il était déçu de voir l'enjeu lui échapper. Après avoir flâné quelques instants dans les salons presque déserts de l'hôtel, Jaël finit par se laisser tomber dans le fauteuil qu'il avait occupé précédemment avec Clarissa. Madame Myriel s'assit en face de lui. Elle se fit presque tendre. « Allons, monsieur de Cerdagne, je n'aime pas vous voir ce visage. Je ne suis pas si cruel. Vous avez été beau joueur, je le serai à mon tour. » Elle rit quand elle vit Jaël reprendre espoir. « Voulez-vous toujours savoir ce que je faisais chez madame de Citer ?» Il approuva, bien sûr. Elle but une gorgée de vin, reposa le verre pour ne plus le toucher. 10 ans ont passé depuis ma toute première fois. J'étais alors d'un tempérament plus romantique. Je m'étais entiché d'un jeune courtisan à la langue trop agile. Malgré moi, il avait pris mon cœur. Et comme tous les hommes, ayant obtenu ce qu'il cherchait, il a disparu. Elle chercha le regard de Jaël, comme pour y trouver des souvenirs. Je restais abattu pendant plusieurs semaines jusqu'à ce que ce rêve commence, toujours le même. J'y voyais ce château, ses fêtes, ses jardins magnifiques, et je savais qu'il s'y trouvait, qu'il m'y attendait. Plus le temps passait, plus le rêve devenait obsédant. Je me réveillais, souvent la nuit, le cœur battant, enfiévré. Je devais le retrouver. Il en allait de la santé de mon esprit et de mon âme. Comprenez-vous cela? Jaël repensa à Eva, l'enfant fleur qui avait hanté ses nuits, lui donnant des rêves de lac noir et de lys qui le laissaient haletant et moite au creux de son lit. Bien sûr, il comprenait. Elle continua. Comme je vous l'ai dit, j'étais d'un caractère passionné. Une nuit, n'y tenant plus, je fis seller mon cheval à la hâte. Ce fut une étrange errance. Je laissais ma monture me guider, car je savais qu'elle prenait le bon chemin, appelée, comme je l'étais moi-même. Bien sûr, j'arrivai au château. J'y suis rentré à l'aube par la grande porte et les grilles largement ouvertes devant moi. Comme vous, je fus présenté à madame de Citer. Comme vous, je découvris les règles du jeu. Évidemment, cet endroit me plut. Je me mêlais avec plaisir au jeu et au divertissement du lieu, sans cesser toutefois de chercher celui que mon cœur réclamait. Et la nuit tomba. Elle tombe toujours trop tôt, et les jeux, peu à peu, changèrent de visage. Et la peur s'insinua en moi. Une chasse aux papillons dont j'étais la victime prit une tournure cruelle. Vous connaissez la chasse aux papillons, je crois. Mal à l'aise, Jaël hocha la tête. J'y ai participé. À la fin de celle-ci, je devais être offerte à la nuit. Je m'enfuis donc, cherchant désespérément une cachette qui pourrait m'abriter jusqu'à l'aube. Et quelle meilleure cachette qu'un labyrinthe! Vous connaissez mon erreur. Le piège se referma sur moi. Une fois entré, je n'eus plus d'autre choix que d'aller au centre. Je savais, je sentais comme une évidence que c'était au centre que j'allais le trouver. Et il était là, sous la tonnelle. Mais quelque chose dans son attitude, dans sa façon de me regarder peut-être, dans la lueur cruelle de ses yeux, me fit comprendre mon erreur. Ce n'était pas lui, elle avait pris sa forme, et elle allait me tuer. Je ne voulais pas mourir, monsieur de Cardan, croyez-moi. Alors je lui ai proposé un marché dont les termes ne témoignent pas en ma faveur. Elle hésita à continuer. En échange de ma vie, je m'engageais à lui fournir des victimes, à trouver d'autres invités pour sa fête. J'espérais naïvement que je n'aurais pas à tenir ma promesse. Elle accepta, et pour sceller le pacte, nous échangeâmes nos sangs. Et je sus que je ne pourrais pas la trahir, que pour toujours je serais lié à cette promesse. Je n'avais pas tort. Elle me laissa partir, donc. Mais quelques jours à peine après être rentré chez moi, je ressentis un appel impérieux. Je devais retourner là-bas. Encore une fois, je n'avais pas le choix. Je devais lui amener sa première victime. Mon choix s'est porté tout naturellement sur celui qui m'avait fait tant souffrir. La fête lui plut à ravir, les demoiselles aussi. Puis la nuit vint, et je ne pense pas qu'il y ait besoin d'en dire plus. Il eut une expression à la fois triste et cruelle, qui laissa Jaël songeur. 10 ans passés, je prenais cela comme un jeu, un peu trouble. J'avais des remords, bien sûr, mais je n'avais pas le choix, et je finis par y prendre un vrai plaisir. Chaque lune, je devais trouver un nouvel invité pour la fête. Cela n'était pas si facile, trop de disparitions auraient fini par se remarquer. Je choisissais des voyageurs, des marginaux, quelques poètes, des courtisanes, des gens dont l'absence n'étonnerait personne. Je jouais mon rôle en ville et dans le jardin, et pendant toute la journée, je les regardais avec bienveillance s'amuser dans le jardin avant que la nuit ne les amène au labyrinthe, inexorablement. Elle soupira. La fin était toujours la même, chaque mois pendant 10 ans. On se lasse même de ces jeux-là. J'étais libre de mes mouvements, emprisonné par un serment de sang que je ne pouvais rompre. Je soupirais après ma liberté. J'ai commencé à choisir les invités sur d'autres critères, cherchant celui qui pourrait la vaincre, mais tous ont échoué. Les hommes sont si faibles. Puis ce fut vous. Il n'a pas été difficile de vous faire venir, j'avais entendu parler de vous. Un écrivain, venant à peine d'arriver en ville, à la recherche d'une maîtresse fortunée, qui vivait des amours un peu délicates avec des jeunes filles bien nées. Vous connaissez la suite. J'aime les mises en scène. Une jeune femme mystérieuse, une lettre énigmatique. J'étais sûr que cela vous plairait. Et la partie de cartes entre nous, dit Jaël. C'était habile. Si vous gagniez, je vous devais le service de mon épée et vous m'auriez envoyé combattre le monstre. Si vous perdiez, vous m'ameniez au labyrinthe comme vous l'avez fait. Je l'affrontais également. Et vous l'avez vaincu, Jaël. Vous n'êtes pas comme les autres. Il repensa à la petite montre de nacre abandonnée dans le jardin. Il parla à Madame Myriel d'Aurore dans sa tour et de la montre, de la musique sous les frondaisons et des pleurs de l'enfant dans le noir. Peut-être, madame, n'étiez-vous pas la seule à soupirer après la fin de la fête. La musique de la montre a brisé le rêve ou le cauchemar de l'être qui vivait dans ce jardin, qu'il prenne la forme du monstre, de la nuit ou le corps d'une jeune fille enfermée dans l'observatoire. Puis il se tut, et lui et Madame Myriel se regardèrent pensivement par-dessus les flammes des lampes à moitié éteintes. Jaël finit par prendre la main de la dame dans la sienne et dire « Et maintenant, allez-vous disparaître, comme vous l'avez déjà fait 2 fois ?»« Tous les jeux finissent par lasser, monsieur de Cardan, je vous l'ai déjà dit. Mais je vois que le jour approche. Me raccompagnez-vous » Elle logeait dans l'hôtel. Pendant tout le chemin du salon jusqu'à sa chambre, Jaël resta silencieux, pensant à cette histoire, à cette femme et à l'étrange attraction qu'elle exerçait sur lui. Et lorsqu'elle ouvrit la porte de sa chambre, il dit dans l'espoir de rester avec elle « Vous aviez également joué votre nuit. Il fait jour, je crains. » Elle s'était retournée et lui souriait de nouveau. Une fleur cueillie n'est qu'un souvenir qui se fane bien vite. Il l'embrassa. Jaël tenta de l'enlacer. Elle l'arrêta d'un geste doux et ferme. Dormez bien, monsieur, rêvez encore. Dormez bien vous aussi, madame. Et la porte se referma. Quelques semaines plus tard, les circonstances forcèrent Jaël de Cardan à quitter Coronia. Il ne revit jamais Madame Myriel. Mais il tint sa promesse et coucha sur le papier le récit des événements qu'il lui fit parvenir. En retour, il reçut ce billet. « Je vous remercie de tous les efforts que vous avez consentis pour moi. Peut-être désirez-vous conserver un souvenir de toute cette histoire. Vous trouverez dans ce pli une graine de labyrinthe. Faites-en ce que bon vous semble. Au plaisir de vous revoir, Mademoiselle Belle. »